Chapitre 8. Il y a parfois, à travers la vie, des rencontres qui encouragent et raniment. Un chien remplaçait maintenant pour Procas l'humanité tout entière. L'âme d'un homme et celle d'une bête se fondaient en une affection réciproque. Il fallait une amitié à cet homme que poursuivait la haine de la foule. Le hasard lui avait envoyé un chien. Procas se souvint alors qu'il avait été autrefois un farouche vivisectionniste, qu'il avait tué nombre de chiens pour tâcher de saisir sur leur pauvre corps frémissant les mystères de la vie, et cela afin de combattre les maux de son prochain. Il revoyait maintenant, comme s'il ne l'avait quitté que la veille, la grande salle au mur blanc où le pauvre bête, envoyé par la fourrière, agonisait, ligoté sur des planches où les chevalets, dépouillée, sanglante, poussant de petits jappements plaintifs ou les hurlements de douleur. Cela lui fendait le cœur. Il lui semblait impossible qu'il eût pu froidement découper vivante des bêtes qui sentent quoi qu'on anime à branche. Et sa pensée se reportait, malgré lui, vers un pauvre petit chien blanc qu'il avait torturé pendant près de 15 jours. Il revoyait le regard suppliant de cette bête dont la mort ne voulait pas et à laquelle il enlevait chaque jour, avec une froide impassibilité, des lambeaux de chair, des muscles, des tendons. Il avait aussi enlevé un œil, ce qui faisait dans la tête du pauvre animal un grand trou rouge par lequel on apercevait les os. Il se rappelait encore un autre chien qu'il avait tenu cloué sur une table, les pattes écartées, après l'avoir fait au flanc une large incision dans laquelle il avait placé un robinet d'argent. Il avait été un tortionnaire de bête, un bourreau presque, sans nécessité, un peu par habitude, et parce qu'il croyait que la vivisection était très commode pour expliquer certains phénomènes physiologiques, réfuter tel ou tel argument, faire preuve d'un savoir que nul ne contestait. Il avait sacrifié, pour le soi-disant bien de l'humanité, de pauvres créatures, et cette humanité qu'il aimait alors par-dessus tout, c'était elle qui aujourd'hui le faisait mourir à petit feu, tandis que la bête, sœur des sacrifices d'autrefois, le consolait dans sa solitude de l'injustice des hommes. Après avoir disséqué sur le mort, il avait disséqué sur le vif, pour mettre à découvert et voir fonctionner les parties cachées de pauvres organismes. Sans la vivisection, avait-il coutume de répéter, peut-être pour son excuse, il n'y a point de physiologie, de médecine scientifique possible, et suivant les paroles de Claude Bernard, il estimait qu'il fallait voir mourir un grand nombre d'animaux pour que les mécanismes de la vie ne peuvent se dévoiler et se prouver que par connaissance des mécanismes de la mort. Et il tuait sans compter, persuadé que l'on pouvait conclure de l'animal à l'homme, bien que, dans nombre de cas, et cela a été démontré, les effets de certains poisons d'ordre psychique, tels que la morphine, la cocaïne et l'atropine, ne produisent point sur les animaux les mêmes effets que sur les êtres humains. Et c'est à tout cela qu'il songeait maintenant, en regardant les bons yeux de l'animal qu'il avait recueilli. L'intelligence des bêtes l'avait peu préoccupé jusqu'alors. Il les considérait surtout comme des machines animées, des automates aux mouvements bien réglés, mais ne se rendant que vaguement compte de leurs actes. À présent, il reconnaissait son erreur, et s'indignait même de la cruauté de Malebranche. Comment, se disait-il en lui-même, ce philosophe a-t-il pu prétendre que les bêtes ne sentent pas? L'animal n'est-il point organisé de la même manière que l'homme? N'a-t-il pas les mêmes sens, le même système nerveux? Ne donne-t-il pas les mêmes signes des impressions reçues? Pourquoi le cri de l'animal n'exprimerait-il pas la douleur aussi bien que le cri de l'enfant? Lorsque l'homme n'est point perverti par l'habitude, par la cruauté, il ne peut voir les souffrances des bêtes sans souffrir également. Preuve manifeste qu'il y a quelque chose de commun entre elle et nous, car la sympathie est toujours en raison de la similitude. Procas avait honte de ce qu'il avait fait d'autrefois. Et il caressait le chien, lui prodiguait des paroles affectueuses comme s'il eût voulu se faire pardonner ses crimes de laboratoire. L'animal dont il avait fait son compagnon était de la race des Barbets. Son pelage gris avait cette couleur terne des bêtes qui n'ont pas été soignées. Une de ses pattes, la droite, était déformée, légèrement tordue en dedans. Sur le dos se voyait une longue cicatrice provenant de quelques coups de bâton récents. Il avait eu naguère un collier car les poils de son cou en avaient gardé la trace. Mais sans doute lui avait-on enlevé pour qu'un passant charitable ne pût le ramener à son propriétaire. Et le pauvre animal avait dû errer longtemps dans les rues, à en juger par la boue dont son ventre et ses pattes étaient maculés. Pourchassé, affolé, lapidé, il avait dû courir longtemps droit devant lui, évitant les hommes, ses bourreaux, ne trouvant un peu de tranquillité que lorsque venait le soir, et se remettant à trotter dès que les boueux venaient enlever les ordures où il cherchait sa vie. Quel instinct l'avait guidé vers Procas ? Comment ce chien, rendu à demi sauvage par la méchanceté des hommes, s'était-il hardi jusqu'à implorer l'aide d'un inconnu qui, semblable aux autres, pouvait le recevoir à coups de pied avec cette phrase qu'il avait entendue tant de fois « Tiens, sale bête !» D'où venait la confiance de l'animal abandonné pour un être humain aussi malheureux que lui ? Est-ce qu'il y aurait entre les êtres qui souffrent une affinité mystérieuse ? Procas, qui depuis des mois ne proférait plus une parole, parlait maintenant à son chien, comme s'il avait eu en face de lui un confident capable de le comprendre. Il lui avait donné un nom, il l'appelait « Mamie », simple définitif de « mon ami », et c'était bien un ami, en effet, maintenant près de lui. Peu à peu, Mamie se transforma. Ses poils, qui tombaient auparavant en longues mèches sales, devinrent propres et luisants. Devant ses grands tristes, dans ses grands yeux numéro un, dans ses grands yeux tristes. Dans ses grands yeux tristes, de vrais yeux humains, brillait maintenant une petite flamme. À la voix de Procas, il se couchait sur le dos et jappait doucement. Toutefois, dans les premiers temps, il demeurait un peu craintif. Chaque caresse était pour lui une surprise, mais peu à peu, il se familiarisa avec son nouveau maître. Procas lui avait fait un lit avec de vieilles couvertures dans un petit recoin proche de l'étuve. Il régnait là une douce chaleur, et Mamie reposait avec béatitude pendant que le pauvre savant travaillait, courbé sur sa table, établi où s'étageaient de gros volumes et des lamelles de verre protégées par des étuis de bois. Et il rêvait sans doute, le bon chien, car par instant il était agité d'un brusque sursaut, dressait la tête et la laissait retomber avec un petit grognement de satisfaction. Peut-être lui arrivait-il de revivre en dormant les heures douloureuses de son existence de vagabond, quand il filait la queue entre les jambes, criblé de pierres par les enfants, à la recherche d'un endroit où il pût lécher ses plaies et ses blessures, loin de ses ennemis, dans l'ombre protectrice de la nuit. Cependant, il ne dormait que d'un œil. Dès que Procas faisait un mouvement, il le regardait et ne s'assoupissait de nouveau que lorsqu'il le voyait penché sur ses livres. Procas était absorbé maintenant par une nouvelle découverte et oubliait souvent l'heure des repas. Grâce à sa sobriété acquise au cours de longues journées de vie errante et affamée, Mamie mangeait peu. Une croûte de pain, un os à ronger, quelques maigres déchets de nourriture et il était satisfait. D'ailleurs, que pouvait-il désirer de plus ? Il avait un nom Il appartenait à un maître qui ne le rudoyait point. N'était-ce pas suffisant pour le bonheur d'un chien? Il eût voulu demeurer continuellement blotti dans son recoin, sous la douce chaleur de l'étuve. Aussi, quand Procas s'apprêtait à sortir, se montrait-il tout inquiet. La rue l'effrayait. Une fois dehors, il marchait craintivement sur les talons de Procas, les oreilles basses, le museau à ras du sol, jetant un regard apeuré de côté et d'autre, comme s'il s'attendait à voir surgir tout à coup ses ennemis d'autrefois. Les enfants surtout lui faisaient peur, et s'il en apercevait un, il se serrait contre son maître. Il n'était jamais si heureux que lorsqu'on reprenait le chemin de la maison. Dès que Procas avait ouvert la porte, il s'engouffrait rapidement dans le vestibule et se mettait à sauter en jappant comme pour dire « À présent, me voilà tranquille. Les méchants gens qui m'ont fait tant souffrir ne viendront pas me chercher ici. » Pour Mamie, tout passant était un ennemi. S'il entendait du bruit dans la rue, il grognait sourdement jusqu'à ce que Procas lui rassurait. Alors il lui léchait la main, frétillait et allait se coucher près de l'étuve, le museau sur ses pattes, l'œil demi-clos, attentif au moindre mouvement de son grand ami qui lui parlait de temps à autre d'une voix douce, comme on parle à un tout petit enfant. Chapitre 9. Le pauvre savant avait retrouvé un peu de tranquillité. Il recommençait à s'habituer à la vie. Tout en travaillant, il tenait de longues conversations à son chien. Il ne se sentait plus seul. Un être vivant allait et venait autour de lui, animait la maison. Quand il avait ensemencé ses bouillons de culture et qu'il les avait disposés dans son étuve, il s'asseyait sur son divan et lisait. Il recevait régulièrement des revues scientifiques qu'il ne manquait jamais de parcourir. En général, elles l'intéressaient peu. Il n'y trouvait que des communications banales ou des études embryonnaires sur des sujets tant soit peu fantaisistes. Par-ci par-là, cependant, son attention était retenue par l'annonce d'une découverte ou quelque expérience de laboratoire faite par un savant étranger qui ne livrait de ses recherches que des détails incomplets, exempts de formules et de précisions. Un jour, cependant, il eut en lisant une de ses communications un mouvement de colère. Un bactériologiste anglais s'attribuait dans un long article tout le mérite d'une découverte sur le Proteus vulgaris. Or, c'était Procas qui, le premier, avait démontré la puissance nocive de ce bacille qu'il avait cultivé avec succès 2 années auparavant. Cela avait fait même l'objet d'un de ses cours à la Sorbonne, et le docteur Roux l'avait à cette époque vivement félicité. Le plagiat était flagrant, et Procas, sous le coup de l'indignation, s'était mis aussitôt à rédiger une protestation dans laquelle il prenait violemment à partie celui qui avait eu l'imprudence de s'attribuer son propre travail. Il couvrit de sa petite écriture 10 grandes feuilles de papier, mais au moment d'envoyer sa protestation, il se dit « À quoi bon ? Était-il donc utile d'appeler de nouveau sur lui l'attention de ses confrères, de réveiller les jalousies qui couvaient sous la cendre ?» Et il se rappela les paroles de son vieux maître, le professeur Viardot « Travailler dans l'ombre, sans souci du monde extérieur. » Notre vie, à nous autres savants, ne nous appartient pas, elle est à l'humanité. » L'exaltation de Procas tomba tout à coup. Il eut un sourire désabusé et jeta au feu sa lettre. Néanmoins, bien qu'il eût renoncé à la gloire qu'il ne pouvait plus recueillir de son vivant, il éprouva une amère tristesse à la pensée qu'un autre allait peut-être bénéficier de son travail à lui, Procas. Ah, s'il avait été comme autrefois, s'il avait pu se montrer, parler en public, avec quelle joie il eût cloué au pilori ce savant anglais sans scrupules, ce spoliateur sans vergogne qui pillait les modestes travailleurs. Pour épancher sa bile, il discourait en se promenant de long en large, la face tournée vers des auditeurs invisibles, semant dans le vide des paroles inutiles, s'exaltant, enflant la voix, au grand effroi du pauvre mamie, qui s'imaginait sans doute que ses imprécations s'adressaient à lui. Il regardait Procas avec de grands yeux effarés, n'osant point bouger de sa place, s'attendant peut-être à se voir chassé de cette maison où il se trouvait si bien après tant de journées de misère. Il ne fut complètement rassuré que lorsque son maître se pencha vers lui pour le caresser. Ce fut ensuite le calme. Procas se remit au travail, mais il était dit que le malheureux ne pourrait point vivre en paix dans son ermitage. La haine de ses voisins, qui couvait toujours, depuis cette mystérieuse histoire de disparition d'enfants, s'était réveillée de plus belle. Après la visite du commissaire, les gens s'étaient tenus quoi pendant quelques jours, mais dans les boutiques, les ateliers, les commentaires allaient bon train. Tout le monde était persuadé que le petit Maurice, c'était le prénom du fils de la mercière, avait été enlevé par le monstre et que celui-ci, après avoir assouvi sur l'enfant une passion bestiale, l'avait coupé en morceaux et brûlé dans sa cuisinière. Comme il arrive toujours en pareil cas, le nombre des accusateurs grossissait chaque jour. Les uns prétendaient avoir vu, quelques instants avant sa disparition, le petit Maurice jouant devant la porte de Procas. Les autres affirmaient que le lendemain, ils avaient très bien senti une odeur de chair grillée sortant de la maison du passage Tenaille. Les imaginations s'échauffaient. Certains parlaient déjà de pénétrer chez le monstre et de lui faire son affaire. Un matin, le gros Nestor, le fils du boucher, dont la demeure était contiguë à celle de Procas, se rendit chez le commissaire en compagnie de deux commerçants qui passaient pour gens posés et appartenaient au comité de M. Jacques Assaut, député du quartier. Reçus immédiatement par le commissaire, ils s'assirent gravement dans le bureau et ce fut Barouillet, l'un des commerçants, qui en sa qualité d'orateur de réunion publique prit seul la parole. Monsieur le commissaire, mon nom vous est sans doute connu, et vous devez savoir que j'ai la réputation d'être un homme sérieux. Le commissaire eut un signe de tête indulgent. Si je me suis décidé à venir vous trouver avec ces messieurs, c'est que j'ai estimé qu'il était de mon devoir de citoyen de vous mettre au courant de certains faits qui jettent la perturbation dans notre quartier. Or, vous savez comme moi que le premier soin de la justice est de surveiller les agissements des gens suspects. Au but, je vous prie, fit le commissaire, que ce préambule agaçait. J'y arrive, monsieur, j'y arrive. Un enfant a disparu, le petit Maurice Pinchon, et malgré toutes les recherches, il est jusqu'à ce jour demeuré introuvable. « Ah oui, je comprends, c'est encore l'homme du passage Tenaille que vous accusez. Ben, c'est-à-dire que tout est contre lui. C'est une sorte de fou, de maniaque capable de tout, sur lequel on a les plus mauvais renseignements. Ah, et quels sont ces renseignements ? D'abord, il a emménagé passage Tenaille, pour ainsi dire, clandestinement. Un soir, des individus de mauvaise mine ont amené dans une voiture un tas d'objets bizarres, parmi lesquels on a remarqué une sorte de poêle, ou plutôt de fourneau, qui n'avait pas une forme ordinaire. Et puis avec ça, il y avait des outils, comme on n'en voit nulle part, des manières de pierce et de couteaux recourbés, bref, des engins qui ne sont pas catholiques. Une fois emménagé, l'homme s'est enfermé chez lui et n'est plus sorti qu'à la nuit tombante, comme un malfaiteur qui craint d'être reconnu. Est-ce que vous trouvez ça naturel, monsieur le commissaire ? Voyons, est-ce qu'on n'a pas de raison de soupçonner cet individu-là ? Il est plus que suspect, et si la police ne se décide pas à agir, je crains que les gens qui sont très montés contre lui ne lui fassent un mauvais parti. Mais cet homme est un malheureux, qu'une affreuse maladie a défiguré. C'est ce qui explique pourquoi il se montre le moins possible en public. C'est un fou, un maniaque. Et vous savez mieux que moi, monsieur le commissaire, de quoi sont capables ces gens-là. Il y a des fous inoffensifs. Mais celui-là est dangereux. Rassurez-vous, s'il était dangereux, j'aurais pas hésité à le faire enfermer. J'ai été perquisitionné chez lui. Je l'ai interrogé longuement et j'ai pu me convaincre qu'il était inoffensif. C'est un savant, un bactériologiste dont le nom a été célèbre. Le gros Nestor crut devoir risquer une remarque. Oh, les savants, quand ils se mettent qu'à être criminels, sont plus dangereux que les autres. Bon, certes, approuva Barouillet, nous en avons eu souvent la preuve. Et tenez, monsieur le commissaire, si vous voulez bien m'écouter encore un instant, je vais vous dire une chose qui vous donnera peut-être à réfléchir. Vous vous rappelez la date à laquelle l'homme est venu s'installer passage Tenaille? Ma foi non, je crois qu'il y a 6 mois environ. 5 mois et 14 jours exactement, c'était le 23 mai au soir. La date importe peu. Je vous demande pardon, c'est très important au contraire. Si je vous parle ainsi, c'est que moi aussi je me suis livré à une enquête avec Parisot, le marchand de couleurs de l'avenue du Maine. Et tous deux, nous avons fait une découverte que vous ne pourrez négliger. Je n'ai pas pour habitude, répliqua le commissaire d'un ton sec, de négliger quoi que ce soit quand il s'agit d'éclairer la justice. Oh, je sais, vous m'avez mal compris. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement vous dénoncer un fait qui peut avoir son intérêt. Remarquez que j'affirme rien. Non, loin de là, je tiens seulement à vous signaler une coïncidence. Oui, c'est bien le mot, une coïncidence, qui nous a frappés, Parisot et moi. Voici, 11 jours exactement après l'installation passage Tenaille de celui que vous appelez un savant, on a découvert au Ciné Carillo, sous la cabine de l'opérateur, le cadavre d'une fillette, la petite Soubirou, que l'assassin avait coupée en morceaux. Vous vous souvenez de cette affaire? Les bras, les jambes et le tronc de la pauvre petite avaient été empilés avec soie les uns sur les autres, et la tête surmontait ce sanglant assemblage. Il n'y a qu'un fou qui ait pu commettre un crime pareil, un fou sadique, car le médecin a certifié que la petite avait été violée avec une brutalité inouïe. Ben, oui, je sais tout cela, mais je ne vois pas quel rapport. Bien sûr, monsieur le commissaire, mais le plus grave, c'est qu'on a aperçu le soir même du crime notre individu qui rôdait aux abords du Ciné Carillo. Qui l'a vu? Oh, plusieurs personnes. Ben, donnez-moi leur nom, je les convoquerai à mon bureau. Oh, leur nom, je ne les sais pas. Vous comprenez, on entend raconter quelque chose, on écoute, mais on ne pense pas à demander aux gens comment ils s'appellent. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai entendu plus de 10 personnes affirmer la même chose. C'est assez troublant, n'est-ce pas? Rapprochez tout cela de la disparition du petit Boris et vous avouerez qu'il y a bien de quoi s'émouvoir. 2 crimes presque coup sur coup, et quel crime! Ça donne à réfléchir. Et puis vous avez dit vous-même que l'homme du passage Tenaille était un savant, un bactériologiste, autant dire un médecin. Et il n'y a qu'un médecin qui puisse si habilement découper un cadavre. Oui, ou un boucher. Ah, le grand Nestor protesta avec indignation. Oui, je sais, fit-il. Quand un assassin a découpé proprement sa victime, on dit tout de suite que c'est un boucher qui a fait le coup. Mais c'est stupide, oui, tout à fait stupide. C'est pas une raison parce qu'on sait découper un mouton ou un veau pour qu'on soit capable de charcuter un être humain. Parbleu, les bouchers ont bon dos. Mais voulez-vous me dire si on peut penser qu'ils soient plus criminels que d'autres? Moi, j'avoue, je serais bien embarrassé s'il me fallait hacher, sectionner, tailler dans la chair du chrétien. Ça, c'est l'affaire des carabins, chacun son métier. Le commissaire, qui désirait se débarrasser au plus vite de ses visiteurs, prolixe comme tous les gens du peuple lorsqu'ils entrent dans les détails de quelque histoire, promit de surveiller étroitement la petite maison du passage Tenaille. « C'est cela, dit Barouillet, ayez l'œil sur cet individu, et vous verrez qu'avant peu vous apprendrez du nouveau. » De l'autre côté, Nestor et moi, nous allons les pieds. Il a beau être malin, nous parviendrons bien à le prendre en défaut. Quand il se croira tout à fait tranquille, il tentera encore quelque chose, sans doute, mais nous serons là. Et je vous garantis qu'on n'hésitera pas à l'empoigner et à le conduire ici. Pas d'imprudence, conseilla le commissaire. Prévenez-moi avant de faire quoi que ce soit, car, vous savez, une erreur pourrait vous coûter cher. Chapitre 10. Depuis quelques jours, Procas ne se sentait pas bien. Il avait généralement la nuit des crises atroces qui le laissaient dans un abattement tel que le lendemain, il lui était impossible de se lever. Cela commençait par un brusque frisson, une douleur cuisante à la base de la poitrine. La chaleur de la peau, la fréquence du pouls, l'anorexie, la soif, une vive céphalalgie, l'avertissait toujours de la crise. Sa respiration était courte, anxieuse, fréquente. Bientôt, il avait une petite toux sèche, ressentait une saveur salée sur la langue, et il était alors obligé de se lever, car il savait que ses symptômes amenaient toujours une hémoptysie. À ce moment, il éprouvait le besoin de respirer largement et allait dans la petite cour située derrière sa maison. Il ne tardait pas à rendre du sang et la souffrance qu'il éprouvait alors lui faisait pousser des gémissements étouffés. Il redoutait ces crises dont il était toujours averti et ces jours-là s'arrangeait de façon à ne pas sortir. Il restait confiné dans son laboratoire, les jambes entourées d'une couverture de laine, réduite à une immobilité presque complète. Son pauvre chien, qui ne comprenait rien à tout cela, venait de temps en temps lui lécher la main, et Procas lui parlait doucement, d'une voix sans timbre, une voix qui semblait sortir d'une caisse remplie d'ouate. Afin de se réchauffer, il s'asseyait près de son autoclave, et se levait de temps à autre en s'appuyant à sa table pour surveiller les lamelles de verre qu'il avait placées dans un petit dressoir. Car il continuait de travailler, mais ne se faisait guère illusion sur l'issue de sa maladie. Il savait bien qu'une de ces crises l'emporterait un jour, qu'elle serait brusque, foudroyante. Son cœur s'arrêterait net et il tomberait comme un homme que l'on fusille. La mort ne l'effrayait point, il était depuis longtemps préparé. Quelques semaines auparavant, il l'avait même souhaité. Mais aujourd'hui, un souci le hantait. Que deviendrait le pauvre mamie quand lui ne serait plus là? Et à cette pensée, une grande tristesse le prenait, et il regrettait presque d'avoir recueilli cet animal. Il se souvint alors d'une dame Romieux, une farouche antivivectionniste qu'il avait un jour attendue à la porte de son laboratoire. Il avait brisé son ombrelle sur le dos en l'appelant assassin. Qui mieux que cette farouche amie des bêtes pouvait s'intéresser à un pauvre chien qu'on lui recommanderait? Procas savait que Madame Romieux était la présidente de la Ligue contre la vivisection, et il se rappelait l'adresse de cette Ligue dans les journaux et dans les revues. Il écrivit donc à cette ancienne ennemie une longue lettre qui ne manquait pas de l'émouvoir, mais il n'osa point donner son vrai nom. Il le dénatura légèrement et signa Procan. En même temps, il pria le notaire, chez lequel il avait encore quelques fonds, de vouloir bien passer chez lui. Il y avait près d'un an que les deux hommes ne s'étaient pas vus. Quand ils se trouvèrent en présence l'un de l'autre dans la petite maison du passage Tenaille, ils se serrèrent la main, mais l'étreinte du notaire fut plutôt molle. Procas, évidemment, lui inspirait une invincible répugnance. Peut-être craignait-il aussi que le mal ne fût contagieux, car il ne demeura que quelques instants avec son client. Procas avait d'ailleurs peu de choses à lui dire. Il s'enquit brièvement de la somme qu'il avait déposée à l'étude, somme dont on lui servait les intérêts, ce qui lui permettait de vivre, et il remit au notaire une enveloppe cachetée en disant « Quand vous apprendrez ma mort, vous préviendrez immédiatement la personne dont vous trouverez le nom dans ce pli et que j'institue ma légataire universelle. Ce sera fait. Bien, mais il faudra vous hâter d'avertir, car je la charge dans mon testament de... enfin, d'une chose grave et urgente. Bon, vous pouvez compter sur moi, mais souhaitons que j'aie à m'occuper de cette affaire le plus tard possible. » Procas eut un geste vague, et le notaire, qui avait refusé de s'asseoir, s'esquiva rapidement comme un homme qui craint d'être contaminé. Quand il fut parti, Procas haussa les épaules. « Tu vois, mon pauvre ami, dit-il, les hommes me fuient comme la peste. Je suis pour eux un objet d'horreur, il n'y a que toi, mon bon chien, qui aie de l'amitié pour moi. » Mamie vint lécher la main de son maître. « Oui, tu es bon, toi, et peut-être comprends-tu que je suis malheureux. Mais il faudra bientôt nous séparer, mamie. Je sens que j'en ai pas pour longtemps et que la fin approche. Les journées que je vis en ce moment sont des journées de grâce. Chaque heure qui s'écoule m'avertit que je m'achemine vers la tombe. Ah, la vie, elle était pourtant bien belle et je m'étais prise à l'aimer. J'ai été trop heureux, vois-tu, je m'étais figuré que cela durerait toujours. C'est bête tout de même d'avoir des idées pareilles. » Une canne de toux lui coupa la parole, un filet de sang tacha ses lèvres. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se laissa tomber sur le vieux divan qui lui servait maintenant de lit, car il n'avait plus la force de monter dans sa chambre située au premier étage. Le moindre effort le laissait haletant, angoissé. L'asphyxie le guettait. Et il le savait bien, car il avait maintenant étudié son mal. Il s'était procuré, parmi les études parues sur la cyanose, celles des docteurs Debove et Vaquez, de Constantin Paul et de Vario. Il éprouvait même une curiosité de savant à suivre les progrès de sa maladie. Cependant, les crises devinrent plus rares. Son cœur se remit à fonctionner d'une façon presque normale, et il put enfin goûter un peu de repos. Comme un malade qui entre en convalescence, il reprit goût à la vie et se remit à ses travaux interrompus. Bientôt, courbé sur son établi, son chien à ses pieds, il ensemençait ses cultures. La science le tenait encore une fois. On eût pu frapper à sa porte, s'introduire dans sa maison, qu'il n'eût rien entendu. Mais parfois, il retombait dans son apathie habituelle et demeurait des journées, étendu sur son divan, l'esprit perdu en une rêverie vague. Dans ces moments-là, tout le passé revenait à son esprit. Il revoyait la grande salle de la Sorbonne où les femmes se pressaient pour suivre ses cours. Il se rappelait jusqu'au moindre détail de ses débuts de conférencier, puis son idylle avec Meg, les premiers mots qu'ils avaient échangés, l'aveu qu'il avait un jour osé faire lui revenait à la mémoire. Et il éprouvait une sorte de plaisir douloureux à évoquer ces instants trop brefs, à remâcher son bonheur défunt, comme ces vieillards qui revivent par le souvenir les temps heureux de leur jeunesse. Parfois, il se demandait ce que Meg était devenu. Il avait conservé son portrait et le regardait souvent. Il oubliait le mal que lui avait fait cette femme et souhaitait de la revoir, sans que toutefois elle l'aperçût, car il comprenait bien qu'il ne pouvait plus se montrer à elle. Un attendrissement le prenait dans lequel il se complaisait de longues heures. Puis brusquement, il remettait le portrait dans une armoire. Il s'efforçait de ne plus songer à la disparue. Mais on n'arrache pas si de son cœur un premier amour. L'homme à bonne fortune peut rire des femmes qui ont occupé sa vie. Mais Procas, lui, n'avait aimé qu'une fois. Et tout son être vibrait encore quand il se remémorait les heures trop brèves qu'il avait vécues avec Meg. C'était un sentimental plutôt qu'un sensuel, et l'on sait combien sont malheureux ceux qui aiment surtout par le cœur. Un jour, il eut l'idée d'écrire à Meg. Il ignorait son adresse, mais était sûr qu'en envoyant sa lettre à Mrs. Reading, sa confidente, celle-ci la lui remettrait. Il n'espérait point attirer chez lui son ancienne femme, mais il lui eût été doux de lui confier sa détresse, d'obtenir une réponse et de correspondre avec elle comme avec une amie invisible qui prend part à vos peines et vous console par de jolies phrases, qui ne sont peut-être pas autre chose que de la littérature, mais dont la douceur est un baume délicieux pour une âme souffrante. Il rédigea une longue lettre dans laquelle il se gardait bien de faire allusion au passé. Simplement, il parlait de son malheur, racontait sa vie, ses travaux depuis que la maladie l'avait forcé à s'isoler du monde. Cependant, il réfléchit. Meg, cédant à un mouvement de pitié, était bien capable de se renseigner, de découvrir son adresse. Et alors elle viendrait peut-être, elle le verrait. Non, non, cela n'était pas possible. Il déchira la lettre et recommença à travailler. Il voulait profiter de ce que la maladie lui laissait quelque répit pour mettre au point des recherches qui, malgré tout, le passionnaient et lui faisaient oublier pour un temps ses souffrances. Il avait remarqué que certains bacilles que, jusqu'à présent, on croyait inoffensifs, étaient au contraire très dangereux lorsqu'on les isolait. Alors ils se développaient rapidement et ne tardaient pas à produire des milliers de colonies. Il s'agissait de les combattre en les faisant absorber par d'autres microbes saprophytes, beaucoup mieux adaptés à leur milieu nutritif. Toutefois, le travail assidu auquel il se livrait le fatiguait beaucoup, et il éprouvait de temps à autre le besoin d'aller prendre l'air. Il attendait que la nuit fût venue et, accompagné de Mamie, sortait de sa maison. Il prenait l'avenue du Maine, la rue Gassendi, puis la rue Froidevaux, qui longe le cimetière Montparnasse, et est presque toujours déserte le soir. Il regagnait ensuite sa demeure après avoir fait quelques provisions chez les commerçants où il se fournissait encore, mais qui depuis quelques jours se montraient envers lui de plus en plus hostiles. Au lieu de le servir rapidement comme il le faisait autrefois, il le laissait poser dans la boutique et ne se gênait plus pour le roudoyer. Bien qu'il payât, et fort cher, on lui donnait les bas morceaux, et un jour qu'il avait hasardé une timide observation, oh, il s'était vu vertement raboué. Récemment encore, il s'approvisionnait chez un petit débitant de la rue du Lunin qui avait consenti à venir à son domicile. Le lundi, il apportait les provisions pour la semaine et déposait son paquet dans l'antichambre. « Combien ?» demandait Procas. Le livreur passait sa note sous la porte et Procas payait, sans se montrer, en allongeant le bras dans l'entrebâillement. Il donnait toujours un fort pourboire. Cependant, un jour, le livreur ne revint plus. Il alla s'informer et le patron répondit brutalement qu'il ne voulait pas servir des individus comme lui. Chapitre 11. Procas avait cru que l'on finirait par l'oublier et voilà que tout à coup il sentait de nouveau la haine gronder autour de sa demeure. Le soir, ouvrait-il une fenêtre, il voyait les gens plantés devant sa porte. Sortait-il, il apercevait des ombres qui se glissaient à sa suite le long des maisons. Il entendait des craquements bizarres dans la petite cour, derrière son laboratoire, et une nuit, il avait cru apercevoir un homme qui escaladait la cloison de planches donnant sur le passage. Vraiment, cette vie n'était plus tenable, et le malheureux, continuellement dans les transes, se demandait à chaque instant si on n'allait pas venir l'attaquer dans sa maison. Il songeait à déménager, à aller demeurer ailleurs, dans quelque coin perdu de banlieue. Mais qui voudrait de lui? Toutes les portes se fermaient dès qu'on l'apercevait. Et puis, en admettant qu'il trouvât un local, pourrait-il y installer, comme passage tenaille, son autoclave, son étuve et tous les objets qui garnissaient son laboratoire? Pour la première fois, un sentiment de révolte s'empara de lui. À l'intense recueillement de cette âme douce et résignée, succéda une colère sourde contre ces gens qui ne connaissaient point et qui prenaient une joie féroce à le torturer. Dire, songeait-il, que personne n'aura pitié de moi, mais s'ils savaient cependant ce que je souffre. Une nuit que le sommeil le fuyait, il avait ouvert la fenêtre donnant sur l'avenue, car ses crises d'étouffement le reprenaient. Accoudé à la barre d'appui, il laissait errer ses regards sur la chaussée luisante où les autos glissaient rapides, projetant devant elle un long cône lumineux. Quelques passants attardés se hâtaient vers leur demeure. Un ivrogne monologuait assis sur un banc. Les 12 coups de minuit s'envolèrent à l'église Saint-Pierre de Montrouge, et Procas s'apprêtait à refermer sa fenêtre, quand un homme se dressa sur le trottoir éclairé par un bec de gaz et s'avança, le poing tendu, en criant « Assassin ! Assassin !» Procas crut d'abord que c'était l'ivrogne qui venait à lui, mais il ne tarda pas à reconnaître son voisin, le fils du boucher. « Oui, assassin, si la police te protège, nous nous ferons justice nous-mêmes. » « Voyons, mon ami, pendant sa procasse, est-ce bien moi que... »« Oui, oui, c'est bien toi, canaille. Oh, je sais pas ce qui me retient de te démolir, ta vilaine figure. » Et le gros Nestor, disant cela, cherchait à atteindre l'entablement de la fenêtre. Procas, comprenant qu'il n'y avait pas à parlementer avec ce forcené, ramena vivement les volets à lui et en assujettit le crochet. Le boucher, qui était pris de boisson, ne cessait point de vociférer, mais quelqu'un dut l'emmener car il y eut un bref colloque et Procas n'entendit plus rien. Il se coucha et fut longtemps à s'endormir. « Ce garçon était ivre, se dit-il, mais m'appeler assassin, moi !» Pourtant, il était inquiet. Cette scène l'avait troublé. Il se rappela la visite que lui avait faite le commissaire, la perquisition à laquelle on s'était livré chez lui, et une foule de pensées l'assaillirent. Il ignorait toujours la disparition de l'enfant de la Mercière, sans quoi il eût compris. Il s'arrêta à cette idée que sa laideur seule était cause de tout et se demanda un moment si on ne cherchait pas à l'effrayer pour qu'il débarrassât le quartier de sa présence. Il n'eût pas demandé mieux, mais où aller? « Bah !» murmura-t-il. Il finit Robéen par se calmer. « D'ailleurs, il me voit si peu. Je sortirai le moins possible. » Le lendemain, à son réveil, il entendit des gens qui causaient devant sa porte. « On a des preuves maintenant, disait une voix qu'il reconnut pour celle du garçon boucher. « Oui, on a des preuves. Oh, on verra que nous ne nous étions pas trompés. » Procas entr'ouvrit doucement sa fenêtre, mais le groupe s'était éloigné et il ne perçut plus que quelques bribes de phrases qui pour lui ne signifiaient rien. S'il avait pu entendre ce qui se disait, il eût été terrifié, le pauvre Procas. En effet, depuis leur visite chez le commissaire de police, le gros Nestor et Barouillet, secondés par un ancien agent d'affaires qui faisait de la police par dilettantisme, avaient épié sournoisement Procas. Chaque soir, ces trois hommes se réunissaient dans un petit café situé à l'angle de la rue Liancourt et de l'avenue du Maine, et se communiquaient les renseignements qu'ils avaient pu recueillir de côté et d'autre. Besombe, c'était le nom de l'agent d'affaires, apportait dans cette collaboration l'acquis de 20 ans de police privée et faisait fort de pincer le coupable, car, disait-il, il avait mené des enquêtes autrement difficiles. En réalité, Besombe était un présomptueux, un homme à l'esprit étroit, mais qui avait beaucoup lu les romans policiers et se figurait avoir les talents d'un détective. Un soir que Nestor et Barouillet se montraient un peu sceptiques sur le résultat de ses recherches, il leur dit d'un ton de confidence « Demain, il y aura du nouveau. » Et en effet, le lendemain, il alla les retrouver au café. « Nous voulions des preuves, leur dit-il, eh bien, j'en ai. Vous pensez bien qu'un vieux livier comme moi sait suivre une piste. Suivre une piste, c'est l'enfance de l'arme, et il faut jamais l'abandonner. Souvent, elle ne conduit à rien, c'est alors qu'intervient ce que l'on nomme communément le flair, et que moi, j'appelle la déduction. On s'engage sur une route, on croit que c'est la bonne, et tout à coup, on arrive à un carrefour où s'ouvrent plusieurs chemins. Lequel choisir? Il faut souvent reprendre toute l'enquête, procéder pour ainsi dire mathématiquement, dégager l'inconnu, et c'est là que la difficulté. Les policiers ordinaires, lorsqu'ils arrivent à pincer un malfaiteur, ont été, la plupart du temps, secondés par des indicateurs bénévoles. Mais moi, je fais fi de ces dénonciations, souvent intéressées, qui n'ont souvent d'autres résultats que tout embrouiller. Je vais droit au but, armé seulement des renseignements que j'ai recueillis, et j'obtiens presque toujours un indice. Vous allez peut-être dire que c'est là une question de veine. Non, la veine est un mot qui n'a pas de sens. Pour moi, c'est la conséquence logique d'une longue méditation et d'une suite de déductions. Ici, Besombe s'interrompit pour siroter lentement son apéritif. Le gros Nestor et Barbouillet le regardaient, surpris. Ils ne savaient pas encore ce qu'il allait leur révéler, mais ils s'attendaient à un coup de théâtre. De déduction en déduction, reprit Besombe en caressant sa barbiche grisonnante. Je suis arrivé au but, c'est-à-dire à la preuve. Jusqu'alors, nous n'avions que des présomptions, graves, il est vrai, mais insuffisantes, pour motiver l'arrestation du coupable. Aujourd'hui, j'ai une certitude. Oh, enfin, dit le gros Nestor, on va donc pouvoir aller au commissaire que nous ne sommes pas des imbéciles. « Grâce à moi, » fit modestement Besombe. « Oh, seul, grâce à vous !»« Et cette certitude ?» demanda Barouillet, un peu vexé de ne plus jouer le principal rôle dans cette enquête. « Je vais, » me répondit emphatiquement Besombe, « vous la faire toucher du doigt, si vous le désirez. »« Mais comment donc ?» s'écria le gros Nestor, sans se demander comment il est possible de toucher du doigt une certitude. « Eh bien, venez. Où ça, loin d'ici ? Vous allez voir. » Tous trois se levèrent, et Nestor régla les consommations. C'était toujours lui qui payait, mais il ne regrettait pas son argent, heureux qu'il était de se trouver mêlé à une affaire sensationnelle. Le patron du café arrêta Besombe sur le pas de la porte. Il n'avait pas osé se mêler à la conversation des trois hommes, mais en prêtant l'oreille, il avait entendu quelques mots qui l'avaient intrigué. Il eut à l'adresse de l'agent d'affaires un petit coup d'œil interrogateur. « Ça va, » répondit Besombe, « ça va même très bien. »« Vous le tenez ?»« Parbleu !»« Oh, c'est pas trop tôt. »« Oh, sacré monsieur Besombe, va !»« Oh, les assassins n'ont qu'à bien se garder avec lui. »« Ben, ça ne serait pas la peine d'avoir été 20 ans dans le métier. »« Oh, c'est pas une raison. » Il y a des gens qui font de la police depuis longtemps et qui n'arrivent jamais à pincer un criminel. Exemple, notre commissaire de police, M. Morisseau. On va lui emboucher une surface à M. Morisseau, lança le gros Nestor. Ils sortirent. Besombe marchait en tête comme il s'y est un chef. Mais Nestor et Bazouillet l'encadrèrent bientôt pour établir entre eux l'égalité. Quelques instants après, ils pénétraient dans la cour du marchand de fourrage, dont la maison, nous l'avons dit, était voisine de celle de Procas. Le marchand, un gros Auvergnat, que dans le quartier on appelait le Grinchu, était dans le petit appartement qui lui servait de bureau. En reconnaissant Besombe, il ne put réprimer un mouvement de mauvaise humeur. « Encore vous ?» dit-il. « Oui, monsieur, encore moi. Je regrette de vous déranger, mais dans l'intérêt de la justice. »« c'est bon, qu'est-ce que vous désirez ? Vous voulez encore pénétrer dans la petite cour de mon voisin ? Mais laissez-le donc, ce pauvre diable. Il est bien assez malheureux comme ça. »« Monsieur, vous ignorez ce qu'est votre locataire, si vous le saviez. Je sais que c'est un pauvre homme, voilà tout. » Et qu'il ne faut pas avoir de cœur pour s'acharner ainsi contre un être inoffensif. Inoffensif, hein, vous croyez cela? Bien sûr que je le crois. Vous ne le croirez pas longtemps, mais lorsqu'il sera arrêté et que les journaux raconteront ce qu'il a fait, vous ne tiendrez pas le même langage. C'est que vous ne savez pas de quoi on l'accuse, hasarda Bazouillet. Oh, c'est toujours facile d'accuser. « Oui, mais aujourd'hui, nous pouvons prouver. » Le marchand de fourrage eut un haussement d'épaule. « Allez, tenez, laissez-moi tranquille avec toutes vos histoires. Êtes-vous envoyé pour le commissaire de police? Non, n'est-ce pas? Eh bien, décampez. »« Mais monsieur, » fit M. Besombe, « il n'y a pas de monsieur qui tienne. »« Vous refusez de nous laisser pénétrer dans la cour de votre locataire? Mais qu'est-ce que vous voulez y faire dans cette cour ?» Vous l'avez vu hier, n'est-ce pas? Eh bien, cela suffit. Ben, je voulais montrer à ces messieurs. Ces messieurs ne sont pas de la police, je suppose. Non, mais ils ont intérêt que moi à découvrir et confondre un assassin. Assassin! Oh, laissez-moi rire. Je crois ma parole que vous êtes tous fous. Rentrez chez vous, cela vaudra mieux. Alors, vous refusez? Oui. Vous n'avez pas le droit quand il s'agit de... « Pas le droit, pas le droit. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Suis-je le maître chez moi, oui ou non? Cependant, hier, vous aviez consenti à me laisser possible. Mais aujourd'hui, je ne veux pas. Est-ce compris? Ça deviendra une procession, ici, à la fin. » « Monsieur, » dit Barouillet d'une voix de père noble, « l'intérêt supérieur de la justice, la sécurité... » Vous allez brailler dans vos réunions publiques et foutez-moi la paix. Il n'y avait rien à faire. Le père Grinchu était de ces vieux bons hommes entêtés et coléreux qui ne craignent pas au besoin de se flanquer un coup de torchon. Et il était solide, l'Auvergnat. Il commençait à perdre patience et devenait violet comme une aubergine. Besombe et ses deux amis jugèrent prudent de battre en retraite. « Quelle brute !» dit Barouillet lorsqu'ils furent dans la rue. « J'avais envie de sauter dessus, » grandit le gros Nestor, qui parlait toujours d'étriper les gens, mais était au fond poltron comme un lièvre.